Les sources de la légende de la mort d'Isildur. Il y eut des témoins de l'événement. Othar et son compagnon s'échappèrent, emportant avec eux les fragments de Narsil. Le récit fait aussi état d'un jeune homme qui aurait survécu au massacre. Il s'agissait de l'écuyer d'Elendur, nommé Estelmo, et il fut l'un des derniers à tomber, mais il ne fut qu'étourdi par un coup de massue et non point tué, et on le trouva en vie sous le corps d'Elendur. Il avait entendu les paroles échangées entre Isildur et Elendur à leur séparation. Du secours arriva sur les lieux, trop tard, mais à temps cependant pour faire fuir les orques et les empêcher de mutiler les corps. Car quelques forestiers furent avertis par les coureurs de Thranduil et eux-mêmes se rassemblèrent en force pour dresser une embuscade aux orques. Ils avaient en effet eu vent de leur présence et ils les disséminèrent car bien que victorieux, les orques avaient subi de graves pertes et presque tous les plus puissants d'entre eux étaient tombés dans la bataille. Et pour de longues années, ils renoncèrent à lancer des attaques de cette envergure. L'histoire des dernières heures d'Isildur et de sa mort reste objet de conjectures, mais de conjectures bien fondées. La légende sous sa forme complète prit corps seulement sous le règne d'Elessar au IVe âge, lorsque d'autres indices émergèrent. Jusque-là, on savait déjà qu'Isildur avait bien eu l'anneau en sa possession et qu'il s'était enfui vers le fleuve. De plus, on avait trouvé sur la berge sa cotte de mailles, son aume, son écu et sa grande épée, mais rien d'autre, un peu en amont des champs de flambes. On savait aussi que les orques avaient laissé des sentinelles sur la rive occidentale, armées d'arcs, pour intercepter quiconque aurait échappé à la mêlée et aurait fui vers le fleuve, car on trouva des vestiges de leur campement dont l'un était tout proche des champs de flambes. Et pour finir, on savait qu'Isildur et l'anneau, ou séparément ou ensemble, avaient dû se perdre dans le fleuve, car si Isildur avait pu atteindre l'anneau au doigt, la berge occidentale, il l'aurait échappé à la garde, et un homme si robuste et à ce point endurant n'aurait pas manqué de rallier la Lorienne ou la Moria avant que de défaillir. Malgré la longueur du voyage, les Dunedain portaient, chacun à la ceinture, une escarcelle scellée contenant un flacon de cordial et des tranches de pain de route, de quoi subvenir à leurs besoins pour plusieurs jours. Non point le Miruvor ou le Lembas des Eldar, mais quelque chose d'analogue, car grande était l'efficacité de la médecine et de bien d'autres arts pratiqués à Numenor, et on ne les avait pas encore oubliés. Et parmi les affaires dont s'était dépouillé Isildur, il n'y avait ni ceinture, ni escarcelle. Longtemps après, comme le troisième âge du monde des elfes déclinait et qu'approchait la guerre de l'anneau, on révéla au conseil d'Elrond que l'anneau avait été découvert, embourbé dans la vase, en bordure des champs de flambes, tout près de la berge occidentale. Cependant, on ne trouva jamais aucune trace du corps d'Isildur. Lors, les membres du conseil se rendirent soudainement compte que Saruman avait fouillé lui aussi secrètement la même région. Or, et bien qu'il n'eût pas trouvé l'anneau, qui avait été emporté longtemps auparavant, ils ignoraient quelle autre chose il avait bien pu découvrir. Mais le roi Elessar, lorsqu'il fut couronné au Gondor, entreprit la réorganisation de son royaume, et l'une de ses premières tâches fut de restaurer Orthanc, où il se proposait d'installer à nouveau le Palantir, repris aux mains de Saruman. On se mit alors en quête de tous les secrets de la tour, et on trouva bien des objets de valeur, bijoux et trésors de l'héritage d'Eorl, dérobés à Edoras par l'entremise de langues de serpent lors de la déliquescence du roi Théoden, et d'autres choses encore plus anciennes et plus belles, arrachées aux tertres et aux tombes en de lointaines contrées. Car en son avilissement, Saruman ne s'était pas fait dragon, mais pie voleuse. Et finalement, derrière une porte secrète qu'Elessar n'eût pu ni découvrir ni ouvrir, si cela n'avait été avec l'aide de Gimli le nain, apparut une armoire de fer. Et peut-être cette armoire était-elle destinée à recueillir l'anneau, mais on la trouva quasiment vide. Un coffret placé sur l'une des étagères supérieures renfermait deux choses. Et la première était un petit étui en or attaché à une chaîne délicate. Et l'étui était vide et ne portait ni lettres ni inscriptions d'aucune sorte. Mais sans nul doute possible, il avait jadis contenu l'anneau suspendu au cou d'Isildur. À ses côtés, se trouvait un trésor sans prix, longtemps pleuré car on le croyait perdu à jamais. l'Hélène d'Ilmire elle-même, la blanche étoile façonnée dans le cristal elfique, sertie dans un fin maillage en mithrille et héritée de Silmarien, qu'il avait transmise à Elendil, qui lui-même l'avait désignée comme gage de la souveraineté dans le royaume du Nord. Et chaque roi et chaque souverain qui lui avait succédé à la tête de l'Arnor avait porté l'Elendilmir et jusqu'à Elessar. Mais bien que ce fût un joyau de grande beauté, fabriqué par les elfes forgerons d'Imladris pour Valandil, fils d'Isildur, il n'avait point l'ancienneté ni le pouvoir de celui qui fut perdu lorsque Isildur prit la fuite dans les ténèbres pour ne plus jamais revenir. Elessar s'en saisit avec révérence, et lorsqu'il retourna dans le nord et assuma de nouveau la pleine souveraineté sur l'Arnor, Arwen la lui noua au front, et les hommes firent silence, éblouis par sa splendeur. Mais Elessar se garda de la placer de nouveau en péril et ne s'en ceignit que pour les grandes occasions au royaume du Nord. Lorsqu'il portait parure royale en d'autres circonstances, il se parait de l'Elendilmir qu'il avait reçu par héritage. « Et cela même, disait-il, est chose à révérer et plus digne que je ne le suis. 40 fronts l'ont porté avant moi. » Lorsque les hommes considérèrent de plus près ce trésor secret, ils s'étonnèrent et s'affligèrent, car il leur apparut que ces objets, et l'Elendilmir en particulier, n'auraient pu être retrouvés à moins d'avoir tenu au corps même d'Isildur lorsqu'il coula bas, et en eau profonde, avec un fort courant, le temps les aurait entraînés au loin. Or donc, Isildur avait dû tomber non pas au plus profond du fleuve, mais dans ses bas-fonds, avec tout juste de l'eau aux épaules. Pourquoi dans ce cas, et bien qu'un âge entier se fût écoulé, n'y avait-il trace de ses ossements? Saruman les aurait-il trouvés et profanés? Les aurait-il brûlés en dérision dans l'un de ses fourneaux? Si tel était le cas, ce serait là œuvre honteuse, mais non la plus noire de ses œuvres.